Le Festival Western de Saint-Tite se poursuit et on a parlé beaucoup de sport équestre, on a beaucoup parlé de la présence des chevaux, les animaux également impliqués dans les rodéos, mais qu'est-ce que c'est en général? Parce que ces taureaux-là, les animaux qui sont là ont des propriétaires. On connaît les propriétaires de chevaux, mais des propriétaires de taureaux. Comment on devient propriétaire de taureaux de rodéo? Et pour en parler, il est lui-même pourvoyeur d'animaux. Steve Henderson est avec nous. Bonjour, M. Henderson.
Bonjour, M. Beaumont.
Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans cette industrie-là.
Ah oui, depuis l'âge de 15 ans, là, donc on parle de plus de 30 ans, 35 ans. Oui, puis évidemment, depuis le début, là, il y a une grosse évolution qui s'est faite, mais on a pas mal toujours été là au cours des années, oui.
Vous avez donc un peu plus d'une trentaine d'années. Ça fait pas 30 ans que vous avez des animaux qui vous appartiennent, par contre?
Non, quand même pas 30 ans, mais je vous dirais 25 ans, là.
Ah oui? Et comment on devient propriétaire? On les trouve où, ces bêtes-là? On n'achète pas un bœuf, j'imagine, sur d'une ferme qui, d'une, ou une vache d'une ferme laitière pour en faire un taureau de rodéo?
Non. Évidemment, non, on ne trouve pas ça sur Kijiji, là. Non. C'est vraiment des élevages spécialisés. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, là. C'est pas comme les fermes laitières, là. Je vous dirais que plus souvent qu'autrement, ça vient de l'Ouest canadien ou bien des États-Unis, dans des fermes spécialisées. Qui élève depuis plusieurs générations là, ces animaux-là avec une génétique là, très, très, très spécifique.
Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, justement, cette génétique-là?
Je vous dirais que depuis plusieurs générations, ils ont couplé les meilleurs taureaux avec les descendants de meilleures vaches pour obtenir des animaux plus habiles, là, qui ont une plus grande agilité, là, puis qui aiment faire ce type de travail-là. Ça prend vraiment une génétique spéciale. Là. C'est des animaux là, qui sont très, très athlétiques.
C'est quoi un arrière-train qui est très fort pour pouvoir vous donner justement des propulsions, pour faire plus de boc, si je me permettez l'expression?
Ben, oui, en partie, oui. Là. C'est surtout l'agilité. Là. La grosseur du taureau est faite, des animaux musclés, des animaux en forme, puis des animaux qui sont capables d'être très intenses et rapides et faire des sauts là, très hauts, là, puis enterrer, puis tourner rapidement. Là. Finalement, là, tout faire pour pour jeter le cowboy à terre rapidement.
Ça vit combien de temps, un taureau de rodéo?
Je vous dirais qu'en moyenne, une dizaine d'années.
Oui.
Ils vont être à leur mieux, là, je vous dirais, entre 3 ans et 8 ans. Là, c'est lorsqu'ils sont à leur mieux. Ensuite, ils peuvent ralentir un petit peu, mais une dizaine d'années environ.
Une dizaine d'années, puis ça peut valoir combien?
Eh mon Dieu, il y a des prix assez élevés. Là. Il y a des taureaux qui se vendent aux États-Unis là, pour des 100 000 $ là, ceux qui vont dans la PBR. Les taureaux champions sont assez dispendieux. Nous, les prix qu'on paye habituellement pour un taureau, là, je vous dirais, ça doit être entre 3 000 et 5 000 $ là.
Quand même. Et vous en avez plusieurs là, présentement?
Oui, 25 environ en ce moment. Normalement, on a un troupeau là, qui joue dans ce chiffre-là, là, entre 25 et 30 taureaux.
Vous avez été d'ailleurs choisi taureau de l'année par votre compagnie 4 fois à Saint-Tite, 2 fois meilleur taureau de l'International Professional Rodeo Association. Pour vous, ça représente quoi comme propriétaire? Ça veut dire que on a réussi à développer des animaux d'une bonne qualité, on peut les revendre ensuite à d'autres compagnies. Ça fonctionne comment?
Ben oui, évidemment, ces animaux-là prennent de la valeur, mais je pense que c'est pas l'objectif principal. On aime nos animaux et on veut les garder le plus longtemps possible. C'est une fierté parce qu'évidemment, des radios comme Saint-Tite qui sont très, très bien classées là, au niveau de la qualité des animaux, font venir des animaux de l'Ouest canadien, des États-Unis. Puis quand on vient à bout de se démarquer à travers ces autres animaux-là, c'est une fierté pour nous là, de dire que nos animaux ont pu être sélectionnés comme les meilleurs. Donc, on les garde là, avec grand soin.
Et c'est, dans le fond, vous le faites plus pour une distinction personnelle, parce que je sais que c'est pas votre entreprise principale, là, vous faites d'autres choses dans la vie qu'élever des taureaux, mais vous, dans le fond, vous le faites pour une reconnaissance, quoi?
Oui. Non, c'est une fierté personnelle. Hein. On les aime tous, là, mais encore plus là, ceux qui peuvent gagner des prix comme ça, là, ils ont quand même là quelque chose de spécial à nos yeux là. C'est vraiment le summum des meilleurs animaux là. Quand on peut gagner le taureau de Saint-Tite ou bien le meilleur taureau de l'IPRA Canada, ça veut dire beaucoup pour nous là. C'est beaucoup de travail finalement là qui nous donne une petite récompense personnelle.
Ça coûte quoi garder un taureau annuellement?
C'est quelques milliers de dollars, hein, parce qu'il y a des soins vétérinaires. Puis évidemment, ces taureaux-là sont gardés pas comme des animaux à bœuf, là, sont nourris mieux que les autres. On s'organise pour qu'il y ait beaucoup de place là, pour marcher dans les champs, puis des petits boisés pour aller se gratter sous les arbres. Il faut finalement là, s'organiser pour qu'ils soient le plus confortable possible là, pour qu'il soit prêt à performer. Là. Il faut qu'il soit frais, dispo et confortable, là, puis qu'il ait envie de performer comme ça.
J'allais vous poser comme question, Steve Anderson est pourvoyeur de taureaux de rodéo, entre autres au Festival Western de Saint-Tite, puis un peu partout aussi à travers le Québec, l'Ontario, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Mais vous avez, quand vous avez une vingtaine d'animaux comme ça chez vous, ça vous prend combien d'espace, idéalement, pour pouvoir en garder, si ça prend des endroits où ils peuvent aller se gratter, etc.?
Ah, ben chez moi, voyez-vous, on a une centaine d'arpents, dont environ la moitié là est pour les packages, là, pour que les animaux puissent aller au champ. Et l'autre moitié, là, c'est des endroits où on peut faire cultiver du foin là, pour pouvoir hiverniser des animaux. Mais je vous dirais environ la moitié là, est en pâturage là, pour les animaux.
Est-ce que vous devez éviter le plus possible d'avoir des contacts avec eux pour qu'ils gardent cet aspect où, lorsqu'ils arrivent en compétition, ils n'aient pas le goût d'avoir de contact avec les humains ou au contraire? C'est un mythe. Que dans le fond, quand ils sont là, ils savent ce qu'ils ont à faire, puis après ça, ben ils retournent, puis vous pouvez quand même avoir un certain contact avec eux.
Bien, je vous dirais, c'est pas des animaux de compagnie, là. C'est pas comme des chiens ou des chats qu'on flatte ou qu'on entraîne à venir au pied, là. Mais il y a moyen quand même de les approcher, là. La façon de procéder, c'est quand on a des jeunes animaux, on commence tout de suite à travailler avec pour qu'ils s'habituent à la présence d'humains, pour qu'ils respectent certaines choses, qu'ils respectent les clôtures, qu'ils respectent les enclos, qu'ils nous respectent aussi. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments donnés, ils ne peuvent pas courir après nous, là, puis nous mettre en danger. Il faut toujours être prudent avec ces animaux-là. Mais ce ne sont pas des animaux sauvages comme tels. Là. C'est des animaux qui sont habitués à être manipulés, qui connaissent le fonctionnement dans les enclos et pour rentrer dans les remorques. Évidemment, là, quand on les nourrit, là, ils savent qu'on est là pour les aider. Donc, ce ne pas des animaux là, qui vont être comme des animaux sauvages, farouches, qui ne sont pas approchables. Mais il faut quand même garder une certaine distance. Là. Il y a un respect à avoir de ces animaux-là, oui.
Mais ça, soit dit en passant, puis je sais que plusieurs de nos auditeurs sont peut-être pas au fait, mais si on va sur une ferme bovine, c'est la même affaire. Il faut quand même garder une certaine vigilance avec les animaux. Là. Ça veut pas dire que la journée où vous y allez, ils veulent vous voir.
Oui, non, c'est des animaux de 1500 ou 2000 livres, là, puis possiblement que même s'ils ne voulaient pas nous faire mal, là, si on est trop près d'eux, puis ils font ça, je suis juste tassé, là, ils pourraient nous coincer puis nous blesser. Donc, il faut toujours être prudent avec ces animaux-là. Certains plus que d'autres, là, ils ont chacun leur caractère et leur personnalité. Donc, on sait que certains animaux, certains de ces taureaux-là, peuvent être agressifs puis peuvent être plus dangereux. Donc, on va surveiller plus, mais habituellement, là, on vient à bout de travailler avec là, en utilisant certaines techniques, là, les ramener en troupeau et les mettre avec des compagnons. Ça peut être plus facile, les manœuvres à ce moment-là.
Qu'est-ce qui arrive d'un taureau en fin de carrière? Ou, exemple, je ne sais pas, vous achetez un taureau, vous avez, il vient d'une bonne génétique, mais l'animal, dans un contexte de compétition, ne performe pas. Qu'est-ce que vous faites avec lui?
Bien, habituellement, ça, on peut le garder pour pratiquer. Souvent, le taureau peut être moins bon. On va essayer de le garder le plus longtemps possible pour pratiquer dessus. Il y a des jeunes cowboys qui vont commencer à monter. Ils vont se pratiquer sur ce taureau-là parce qu'on ne veut pas les commencer sur des taureaux trop difficiles. Puis finalement, à bout de carrière complètement, c'est soit ils décèdent à la maison ou bien ils s'en vont pour faire des bovines bouchées, tout simplement.
OK. Racontez-nous, M. Anderson, en terminant, là vous êtes au Festival Western de Saint-Tite, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans la région de la Montérégie. Le transport, ça fonctionne comment? Vous ne les laissez pas à Saint-Tite pendant 2 semaines, là, ces taureaux-là?
Oui, ils restent ici pendant 2 semaines à Saint-Tite. Oui, on les amène à l'avance, puis ils ont toutes les installations nécessaires. Ils ont une équipe qui s'occupe de nourrir les animaux, qui voient à leur bien-être. Puis oui, en effet, ils restent ici pendant 2 semaines, les taureaux.
Et un taureau performe combien de fois durant les 2 semaines?
Je vous dirais entre 2 et 5 fois maximum, là. Alors, même pas 5 fois, là. Je vous dirais plus 2-3 fois, là. Peut-être 4 fois, pas plus, là.
C'est quoi les blessures qu'on voit le plus souvent chez ce genre d'animaux-là?
Mais habituellement, c'est des blessures quand ils se battent entre eux, hein.
Ah oui?
Faut essayer de les séparer, les mettre dans les groupes d'animaux où ils s'entendent, mais il y a souvent quand même là, des chicanes entre eux, si on veut. Donc, ça va être plutôt des contusions, des lacérations. C'est probablement là, ce qui est le plus fréquent, ou bien les boiteries.
Steve Anderson, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir votre industrie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
C'est moi qui vous remercie, M. Beaumont.
Merci, au revoir, à la prochaine. Steve Anderson est pourvoyeur d'animaux de rodéo, de taureaux de rodéo. Il en a une 20aine.